Hey, Anne, ma sœur Anne, il faut pas se faire de mourant. T'es pas la première à être cocu d'un banquier. On est 60 millions ou presque dans ce cas-là en ce moment. Alors, est-ce qu'on pleure, nous? Eh non, vive la crise. Merci, monsieur Montand.
Salut Daniel, un petit message là qui est paru, un petit message publicitaire qui est paru dans Le Monde du 3 octobre concernant la caisse d'épargne. C'est assez drôle, vous allez voir. Donc il s'est vu décerner la corbeille d'or, etc. Donc je lis un petit peu la pub là. Mais ce qui a le plus de prix pour nous, c'est la confiance de nos clients. En recherchant depuis toujours à vous aider à épargner plutôt qu'à spéculer, notre gestion s'applique en permanence à la rigueur et à la prudence. Voilà pourquoi aujourd'hui votre confiance vient en plus de ce prix comme notre plus belle récompense. C'est pas beau ça. Et il y a un petit message en bas qui est excellent, une petite phrase là, un astérix. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ils sont pas visionnaires ces gars-là quelque part, moi je dis bravo quand même. Allez, salut Daniel, à la prochaine. C'était Lucas de Picardie.
Nous venons d'apprendre qu'une des têtes de la caisse d'épargne vient de passer au crédit foncier. Alors ça c'est une sanction, hein. Enfin, franchement, là il doit rigoler comme complètement. Et ben voilà, allez, salut et merci à tous. C'était Michel de Colonie, à bientôt.
Oui, on nous parle de 600 millions de pertes, la caisse d'épargne, on nous parle de 2 milliards de pertes à la Société Générale, etc., etc. Mais pertes pour les banques, mais qui a gagné ce pognon? Qui en profite? Mais c'est qui? Il y a bien quelqu'un qui a ce pognon, hein? Faut bien, faites des recherches un petit peu, dites-nous qui sont ces salopards qui profitent de tout ce pognon, hein, qui s'engraissent sur le dos des autres, là. C'est qui ces spéculateurs, là, ces enfoirés, là, qui profitent de la crise? C'est qui ces gros salopards? C'est qui?
Bonjour, cet argent perdu par les banques, qui l'a récupéré? Il n'est pas perdu pour tout le monde. J'aimerais bien qu'on m'explique à moi qui fait partie de la France d'en bas et qui a 1000 euros de retraite par mois. Quand je joue 4 euros au loto, ils sont perdus pour moi, mais pas pour la Française des Jeux qui les récupère. Alors, expliquez-moi.
Au secours, Daniel. Comme lors du décès de l'abbé Pierre, tous les opportunistes louent l'action de sœur Emmanuel, alors qu'ils sont restés insensibles à l'appel en faveur du milliard d'affamés qui meurent chaque jour par centaines de milliers. Seule la crise financière comptait pour eux. Yalla les pauvres, sœur Emmanuel ne vous abandonne pas. Elle a prévu sa succession en créant des associations qui continueront son combat. Au revoir.
Salut Daniel, salut à tous. Moi je me lève ce matin, j'essaie de voir un peu les journaux, tu vois, ce qui s'est passé dans ma ville parisienne hier, ou dans la France. Et il n'y a pas eu de manifestation, hein, il n'y a pas un seul journal qui parle de la manif. Moi j'ai dans une librairie, je travaille le dimanche. Bon, on est bien obligé. 4 heures de défilé de manif, pas un seul mot dans les journaux. Il y a Cluma là qui fait sa une dessus, mais je vois pas. Ça n'a pas existé, j'ai l'impression. Et ben bravo, tout ça, bravo. C'était Thomas de Paris. Ciao.
Xavier Darcos a dit aux infos sur TF1 dimanche soir, l'immobilisme est un crime contre l'intelligence. À cela, je réponds trois choses. Le complexe de supériorité est un crime contre l'intelligence. 2, entendu sur France Inter, vivement demain que ce soit comme hier. 3, la confiance est un crime contre la connerie. C'était Babette de l'Isle-sur-la-Sorgue. Au revoir.
Bonjour les gauchistes. Hein. Ici un entrepreneur. Alors je voudrais juste vous dire un petit truc. Il y a une différence entre l'entrepreneur et le patron. L'entrepreneur, lui, va jusqu'à emprunter du fric pour payer ses employés. Ça a été mon cas. L'entrepreneur aime entreprendre, aime son entreprise. Et des gens qu'il y a autour, même s'il est contre l'égalitarisme, et heureusement d'ailleurs. Je m'associe de tout cœur avec vous contre ce capitalisme pourri, ce capitalisme de financiarisation. C'est ça qui a eu raison de ma petite entreprise. Aujourd'hui, 55 ans, plus d'entreprise, pas de couverture chômage évidemment, puisque j'étais entrepreneur. Et pourtant, Dieu sait si j'ai du talent et si je vaux quelque chose. Eh bien non. Dans ce monde où de gauchistes ou de financiarisateurs, eh bien il n'y a pas de place pour les entrepreneurs. qui fait que si on veut éviter la dictature du prolétariat de Besancenot, eh bien il faut aussi éviter la dictature des financiarisateurs. En fait, vous savez ce qui manque dans le monde ? Eh bien, tout simplement une chose, de l'éthique, de l'éthique, de l'éthique. Voilà. Allez, salut les gauchistes.
Bonjour, c'est Florence en Ardèche. Je viens d'écouter la rediffusion de l'émission avec Frédéric Lordon. Alors bravo, parce que moi qui ne comprends pas grand-chose aux grands principes et aux lois de l'économie actuelle, j'ai l'impression que j'ai tout compris. Deux interrogations cependant. C'est bien joli de suggérer qu'on fiscalise les dividendes supérieurs à un certain pourcentage. Mais qu'est-ce qui empêchera les actionnaires d'aller investir ailleurs qu'en France ou en Union européenne? Et en quoi est-ce que cela intéresserait d'ailleurs nos politiques? Et puis deuxième question, plus humaine si je puis dire, où est la lueur d'espoir dans tout ça? C'est quand même assez désespérant de voir dans quel système on vit et le bruit qu'on fait autour de petites aventures sans intérêt et l'ignorance dans laquelle on nous laisse, sauf chez Mermet, de grands, grands problèmes qui déciment les populations. Voilà, c'est pas très optimiste, mais peut-être qu'en comprenant mieux, on pourra essayer d'avancer tous ensemble. En tout cas, bravo, merci. C'était Florence. Merci, au revoir.
Salut Daniel. Salut les AMG. Juste un petit message pour annoncer la projection du DVD Chomsky et compagnie dans le cadre de notre café repère au poulailler à Bègle le jeudi 23 octobre prochain à 19h. En effet, dans le contexte actuel, il nous a paru particulièrement opportun et important d'utiliser ce film afin d'aiguiser notre capacité à faire le tri ou à décrypter les messages des spin doctors et autres spécialistes des finances mondiales, tous donneurs de leçons. Pour cela, un petit cours d'autodéfense intellectuelle dispensé par d'imminents chercheurs, journalistes ou activistes tels que Jean Bricmont et Norman Baillargeon, ou encore par l'intellectuel le plus populaire et le plus cité au monde, Noam Chomsky, nous semble un bon début. Alors ne ratez pas la séance, 19h au poulailler, place du 14 juillet à Bègle en Gironde, le jeudi 23 octobre. C'était Michel, bye bye.
Merci chers AMG de tous vos messages, merci pour ces projections. Pour tout savoir sur la sortie de Chomsky et compagnie, le film dont une partie d'entre vous sont les héroïques souscripteurs, ce film donc va sortir le 26 novembre, vous le savez, et pour tout savoir sur les projections, sur toutes les animations, etc., vous pouvez aller sur là-bas.org, là-bas.org, où vous serez guidé, vous aurez tous les renseignements des mutins de Pangée pour suivre cet événement. C'en est un. Alors, aujourd'hui, l'entrepreneur qui fait la différence entre l'entreprise et le patron va être assez content parce que on va en nouvelle diffusion, écouter les patrons contre la finance. C'était deux émissions au moment de la sortie du film de Gilles Perret, Ma mondialisation, où on montre comment dans une petite zone industrielle, dans une vallée, les fonds de pension arrivent et détruisent l'économie ou compromettent l'activité économique, l'activité industrielle. Et ça nous semble intéressant de revenir là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, on est en train de dire, oh là là, ça va être terrible quand la crise financière va rencontrer l'économie réelle. Mais ça fait très longtemps que la finance a rencontré l'économie réelle, comme on dit, et on en connaît les dégâts. Et on va démontrer encore une fois les résultats humains, bien évidemment. D'abord la destruction de l'activité économique, et puis évidemment avec les résultats humains terribles, les destructions d'emplois et les désastres sociaux que l'on connaît aussi ici aux États-Unis où nous sommes à Cleveland, Ohio aujourd'hui, et on rencontre les familles qui ont été expulsées suite à la crise des prêts hypothécaires, comme vous savez, qu'on appelle les subprimes. C'est énorme, c'est absolument énorme. En 2007, rien que dans cet état où nous sommes, dans l'Ohio, il y a eu 153 200 saisies immobilières. Rien que pour le premier semestre 2008, il y a eu 67 000 saisies immobilières, des gens qui ont été expulsés ou dont les biens ont été saisis. Les biens, en l'occurrence, c'est la maison. Mais c'est pas le seul état aux États-Unis. C'est la même chose dans le Michigan, c'est la même chose en Floride. Et il y a des expulsions qui sont faites quotidiennement, des quantités d'expulsions. Alors face à ces expulsions, il y a les gens qui cassent toute la baraque avant de partir. Il y a ceux qui attendent le shérif avec des fusils chargés. Il y a ceux qui partent au dernier moment en laissant tout, absolument tout, même la casserole sur le feu. Et puis, il y a aussi la grand-mère de 90 ans qui tente de se suicider quand la police arrive pour l'expulser. C'est arrivé au début de ce mois. Cette dame de 90 ans qui a tenté de se suicider s'appelle Ellie Polk et elle a ému, évidemment, profondément, mais très très profondément, l'Amérique profonde dans cette crise émeut, remue et consterne, on peut dire, tous ceux que nous rencontrons. Pas tout à fait tous, parce qu'il y a évidemment les requins et les vautours qui ne manquent pas de s'engraisser, notamment ceux qui pratiquent ces expulsions. Tout ça, on vous le racontera dans les prochains numéro de la base, j'y suis. Pour l'instant, donc, les patrons contre la finance ou la finance contre les patrons. Et auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour à l'équipe de la base, j'y suis. On apprend aujourd'hui que Colin Powell va voter Barack Obama. On apprend de même que Barack Obama, en remerciement, prendra, s'il est élu, comme conseiller Colin Powell. Il y a lieu de s'inquiéter et non de se réjouir, à mon avis. Car n'ayons pas la mémoire courte, c'est ce même Colin Powell qui, début 2003, présentait sans rougir devant l'Assemblée Générale de l'ONU des photomontages des prétendues armes de destruction massive. Et ce, pour justifier l'intervention américaine. C'était Jean-Pierre de Chambéry.
Ici le repère des AMG de Guadeloupe. Bonjour à toute l'équipe de là-bas et à tous les auditeurs. Notre deuxième rendez-vous ayant été reporté pour cause d'alerte cyclonique, nous nous réunirons ce mercredi 22 octobre au bistrot Le Petit Extra à Jarry, rue Alfred Lumière, immeuble Mataglo. Nous parlerons entre autres de l'Obamania antillaise ou comment vouloir faire élire à tout prix un président noir sans connaître une ligne de son programme. Venez nombreux débattre avec nous et les touristes de passage seront les bienvenus. Allez, au revoir.
Ah, Vienne, sous-préfecture de l'Isère. Vienne, son patrimoine romain. Vienne, son festival de jazz. Vienne, son microcosme politique assez obscur. Vienne, son nouveau repère de là-bas si j'y suis. Ça se passe ce jeudi 23 octobre 2008 à 20h au Bougalou Bar. À Vienne, 1 place des Carmes, à 2 pas de la rue Mermet. Ça ne s'invente pas, ça. Au programme, déjà, on va faire connaissance et puis on va réfléchir ensemble à ce que ça peut être cette affaire de repère. Une info, un renseignement, un petit courriel à icinousysommes@gmail.com. Ici nous y sommes, en minuscules et sans faute d'orthographe, s'il vous plaît. Voilà, de la part de Chloé, Jonathan et Nico, on vous dit à très bientôt les AMG et à jeudi. Ciao!
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec François Ruffin, la mondialisation heureuse.
Flight number 2, arriving from New York.
Ces fonds de pension ont une attitude qui est à la limite de l'acceptable, et ils s'excitent d'ailleurs chaque fois qu'il y a un licenciement ou un plan de licenciement. C'est pour eux, c'est une espèce d'orgasme, c'est fantastique. Donc c'est prendre son pied, tout de suite l'action va monter. Sur le plan humain, c'est inadmissible. Donc pratiquement, il devrait y avoir des lois qui l'interdisent.
Ces grosses boîtes qui ont été rachetées par des financiers, ils ont détruit, à ce que je connais, 1300 emplois. Ils s'en foutent. C'est des requins, si vous voulez. Hein.
Qui parle ? Qui vient de parler ? Quelles sont ces deux voix ? Celle de licencié, de récemment licencié, celle de syndicaliste, celle d'intellectuels anti-libéraux. Eh ben non, pas du tout. Les deux voix qu'on vient d'entendre sont celles de patrons, des patrons français, de PME, tout à fait actifs, tout à fait patrons et tout à fait contemporains. Ça manquait à nos reportages, à notre travail depuis de nombreuses années. Là-bas, si j'y suis, c'est attaché à décrire, essayer de raconter les effets de cette révolution conservatrice, néolibérale, et les effets, c'est-à-dire les effets dans la société, les effets sur l'environnement. On a moins travaillé, il faut bien le reconnaître, sur l'environnement que sur les effets sociaux, à travers des reportages, justement, sur des plans sociaux, mais aussi bien sur toutes les conséquences dans la vie, parce que la violence des rapports économiques évidemment induit et suscite des violences dans les rapports sociaux, jusque d'ailleurs probablement, et ça c'est peut-être plus difficile à mesurer bien évidemment, dans les rapports intimes, dans les rapports de la vie quotidienne, conjugale, familiale, etc. Donc, on s'est attaché à essayer de décrire tout ça. Je crois qu'on a fait notre premier reportage sur un plan social. Ça date en 1992. Ça fait donc bien longtemps. Et l'émission ayant commencé en 89, c'est un souci qu'on a eu assez rapidement. Mais jamais du côté des patrons. Enfin, la critique des patrons. Est-ce que les patrons critiquent? Alors quand on les entend dans notre radio par exemple, non, bien sûr, ils sont là pour défendre. On a l'impression qu'ils sont tous d'accord, ces patrons. Il y a une voix, et puis ils sont tous du petit cordonnier du coin jusqu'au patron d'un super groupe international. C'est tous les mêmes, si bien qu'on finit par très bien comprendre quel est ce monde des patrons. Alors voilà pourquoi, avec François Ruffin, on est allé en Savoie. On est allé à Cluse, dans la vallée de l'Arve, où on se livre au décolletage. On va découvrir ce que c'est que le décolletage. Et on va découvrir cette région, une région industrielle qui marche bien, qui a bien marché, qui est une histoire d'un capitalisme paternaliste, comme on disait, et qui, peu à peu, ça vient d'être suggéré dans une des phrases qu'on vient d'entendre, a été peu à peu gagné par les fonds de pension, ces fonds de pension qui achètent des entreprises, qui investissent dans un certain nombre d'entreprises, qui licencient, qui coulent. Et c'est donc qu'on va voir le sens de l'expression l'économie financiarisée. Qu'est-ce que ça voulait dire, l'économie financiarisée? Eh bien, on va voir la différence entre l'économie, l'industrie et la financiarisation qui coule peu à peu et qui détruit peu à peu cet autre âge du capitalisme. Au détriment, évidemment, toujours des mêmes. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis.
Membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de défendre tout ce qui paye l'ISF et la liberté d'entreprendre, et je me battrai pour qu'on baisse significativement les charges, étant donné ce qu'on encaisse, pour que nos manœuvres aient plus de marge. Quand je serai membre du MEDEF, je serai le partenaire social de tous les précaires et des SDF, car quand on est libéral, on rend le travail plus flexible, et pour ce qui est de la justice, on promet la main invisible d'Adam Smith. Je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance, et je comprends pas pourquoi il me reste que, il me reste rien à la fin du mois. Quand je serai membre du MEDEF. J'aurais pour tâche de foutre en l'air tout ce qui rapporte pas des aides et qui coûte cher aux fonctionnaires. Et je me battrais contre la crise pour relancer l'activité. Je me rendrais qu'on la délocalise partout où on veut l'exploiter. Quand je serai membre du MEDEF, je dirais que le libre-échange peut tout, pendant que j'engrangerai les bénéfices. En embauchant à moindre coût, je serai pour un État régalien, armé des lois de la police qui se tiennent main dans la main. Madame Smith. Ils disent que le droit du travail n'est pas favorable à l'emploi parce qu'il est trop contraignant et contre-productif. Ils disent que le salarié devrait ne devoir compter que sur soi parce qu'il peut pas y avoir de projet collectif. Ils socialisent les coûts et privatisent les bénéfices. Les biens publics ne valent le coup qu'à condition qu'ils s'enrichissent. Alors je me dis que je dois pas être le seul en lice à vouloir mettre ma main dans la gueule d'Adam Smith. Un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il me reste que il me reste rien à la fin du mois. Et je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il me reste que il me reste rien à la fin du mois.
Vous connaissez le nom d'école, là, autour de nous ?
Oui, ouais, bien sûr, oui. Il y a le col de Châtillon, le pic de Marcelly, Nancy-sur-Cluse, le Bargy, un peu plus loin, la Pointe Percée, le Chevry, enfin voilà.
Donc quand on dit Cluse, on pense plutôt ski, on pense c'est là où on met les pneus neige pour monter vers les stations en hiver. Mais vous, vous répondez industrie ?
Ah oui, dans la vallée, il y a... C'est l'industrie qui est prédominante, c'est-à-dire qu'il y a encore 12 000 salariés qui travaillent dans l'industrie de pointe, qui s'appelle le décolletage. En fait, c'est un rapport quand même avec les montagnes, puisqu'à l'origine, c'était des paysans montagnards qui, pendant l'hiver, faisaient des petits rouages pour l'industrie horlogère suisse, puisqu'on est à côté de Genève, et après descendaient dans la vallée, descendaient à Genève livrer leurs produits. Donc c'est parce que pendant l'hiver, les paysans ne pouvaient pas travailler à la ferme, les champs, puisque les hivers étaient rigoureux et longs, qu'ils se sont mis à faire un petit peu de sous-traitance, déjà, pour l'horlogerie suisse.
Voilà, une longue histoire. Celui qui parle, c'est Gilles Perret. Et Gilles Perret, c'est un réalisateur de films. C'est un gars du coin. Et il a fait un film tout à fait passionnant sur cette vallée, cette vallée de Larve, qui s'appelle Ma mondialisation. Je vous conseille ce film parce que c'est une démonstration de l'intérieur, de peut-être la fin à terme de cette histoire. Il vient de nous le dire, qui dure depuis quand même pas mal de temps, qui s'est enchaîné, mais depuis quelques années, les patrons ont presque tous vendu leurs entreprises aux fonds nord-américains, aux fonds d'investissement nord-américains, et ça dans le cadre d'une concurrence mondiale acharnée. On est dans la globalisation, on est dans la déréglementation, et concurrence suppose évidemment pour y faire face des investissements importants. Or, là, les fonds qui s'appellent d'investissement n'investissent pas, ne favorisent pas l'investissement, et peu à peu, ces entreprises, après avoir été vendues, donc coulent peu à peu. C'est pas le cas de toutes encore pour l'instant, mais c'est très préoccupant. Ce qui se passe dans cette vallée est très préoccupant. En tous les cas, c'est sur un périmètre assez limité, local. On est dans le local. On peut penser cette globalisation, on pourrait dire, globalement, avec Gilles Perret.
Les stations de ski, l'Or Blanc, c'est en haut, et l'industrie, c'est en bas de la vallée.
Voilà, c'est ça. Le ski en haut et l'industrie dans la vallée, ce qui fait que globalement, la région est assez prospère, quoi.
Donc là, on passe,
Là, c'est une première zone industrielle. Donc, on passe à côté d'une grosse boîte qui s'appelait La Clusienne, comme Cluse, mais maintenant qui s'appelle Teleflex. C'est un groupe financier américain qui a racheté. Les zones sont nombreuses parce qu'il y a encore 500 entreprises qui travaillent dans ce domaine d'activité. Et on dit que c'est la plus grosse concentration autour de la même activité qui soit répertoriée au monde, parce que c'est sur un périmètre assez restreint. toutes les voitures du monde entier, puisque les décolteurs travaillent pour tous les constructeurs automobiles du monde, sont équipées par des pièces qui proviennent de cette vallée. Et chez chaque foyer français, que ce soit en ameublement, en appareillage électroménager, il y a des pièces qui viennent de cette vallée. Alors là, on est dans une zone où il y a eu une forte immigration dans les années 60. Et on avait construit des HLM un peu loin de tout, entre l'autoroute, la route nationale, loin du centre du village. Dans les années 60-70, hein, pendant les 30 Glorieuses, on manquait énormément de personnel, donc les décolteurs allaient chercher cette main-d'œuvre. Là, on arrive devant une société qui était un des fleurons de la vallée, qui a été rachetée par des fonds de pension américains, en fait, qui a déjà à son actif deux plans sociaux.
Donc ça, c'était Autocam, là c'est quoi?
Là c'est Côterlaz, alors eux c'est pareil, c'est une usine qui a délocalisé un petit peu, qui a implanté dans les pays de l'Est, qui a implanté en Chine maintenant aussi. Les deux derniers phénomènes auxquels on assiste, c'est qu'au début des années 2000, toutes les plus grosses sociétés ont été rachetées par des financiers. La principale, c'était Franck Épinard, qui était le fleuron de la vallée avec 1000 salariés, qui a été racheté donc par des fonds de pension américains, revendu 4 ans après avec une grosse plus-value pour les premiers actionnaires, hein, de quelque chose comme 200 millions de dollars. Et par contre, plus d'investissements industriels, et il y a déjà eu deux plans sociaux, et ils sont vraiment en train de mettre la boîte dans le mur. Maintenant tous les voyants sont au rouge et c'est dramatique, quoi. Après, des sociétés, il y a eu Henrico, César Vue Archex, qui ont été vendus à Bank of America, tous les deux. Et là, avec l'antériorité, maintenant, on peut dire que toutes ces sociétés qui ont été rachetées maintenant, il y a 6, 7, 8 ans, ce sont dans toutes ces sociétés qu'il y a les plans sociaux et les plus gros problèmes. Et les petites structures qui sont pas dépendantes du marché automobile ou qui sont restées familiales sont des structures qui tournent plutôt pas mal, quoi.
Le 7-9-30, Nicolas Demorand.
Entreprise et stratégie à 7h50. Bonjour Brigitte Jean-Perrin.
Si l'emploi ne repart pas en France, c'est plus par manque de politique économique et de réforme de l'État. C'est en tous les cas l'avis du nouvel ami de Guy Carlier, Xavier Fontanet, PDG d'Essilor. Vous allez voir, c'est formidable.
On dit toujours le chômage, c'est la mondialisation. Alors on peut démontrer ça à court terme, mais à long terme, quand vous avez un État qui prend 55% du PIB en impôts, qui met des réglementations qui empêchent de travailler. À ce moment-là, vous gênez la base française et c'est ça qui crée le chômage.
C'est à cause de l'État et pas à cause de la mondialisation et des entreprises.
L'État français a une caractéristique énorme, c'est l'État le plus gros du monde. Et comme il est gros sur le plan quantitatif, il a généré des réglementations qui freinent.
Comment faire alors pour garder un niveau de protection sociale et le reste?
Aux États-Unis, notre plus grosse usine, il y a 5 ans, c'était de 1800 personnes. Cette usine a été fermée avec l'accord des syndicats, on a aidé les gens. Je peux vous dire que les gens se replaçaient dans les 15 jours. Et le problème, c'est que c'est le marché du travail. On a un très mauvais marché du travail, mais ce marché du travail, c'est qu'il y a une trop grande réglementation. Et le jour où les Français comprendront que l'État, entre guillemets, Providence, qui se présente comme leur protecteur parce qu'il donne de l'argent, est en fait l'organisation qui crée le problème parce qu'il prend l'impôt, c'est comme si je vous dis, mais chère madame, vous êtes un petit peu palote. Donc je vais vous mettre du sang dans le bras gauche. Évidemment, le sang, je vais le prendre dans le bras droit. Et puis comme il faut que je vive, ben, faut que je prenne au passage. Vous comprendrez que plus je vous en mets dans le bras gauche, ben, plus j'en aurais pris dans le bras droit et plus vous serez palote parce que j'en aurais pris. C'est exactement ce qui se passe.
Est-ce que les chefs d'entreprise n'ont pas aussi leur responsabilité?
Je crois qu'en fait, il faut que chacun fasse son travail. Le rôle de l'entreprise, c'est de conquérir le monde, devenir leader mondial. Je crois que le rôle de l'État, c'est de comprendre que son problème, c'est pas s'occuper de ce que font les entreprises, c'est de se faire un re-engineering à lui, qui revienne dans son état régalien, qu'on ait une excellence au niveau de la justice, de la police, des affaires étrangères, de l'armée, ça c'est évident. Mais il y a des tas de domaines dans lesquels il est rentré dans l'économie et là il s'est fourvoyé.
Voilà, c'est Xavier Fontanet, PDG d'Essilor et président du comité d'éthique. D'éthique, c'est pas l'éthique. Oh, Marquet, c'est un peu l'éthique, oui. C'est l'éthique du MEDEF. Alors quand même, bon, on comprend, vous avez compris, c'est la réglementation. Il y a trop de réglementation dans cet état archaïque, c'est français, archaïque. Et tout ça, c'est à cause de l'État, etc. Et ça, c'est la voie donc de l'éthique du MEDEF. Eh bien, nous, on a quand même trouvé des patrons, et pas des moindres, qui ne sont pas d'accord avec ce point de vue, mais alors absolument pas du tout, qui ont une autre analyse qui est assez proche de celle de Gilles Perret qu'on vient d'entendre. Mais lui, vous le soupçonnez, parce que vous dites, oh, bon, c'est un cinéaste, il fait un documentaire. Ouh là là, ça va être un gars qui va aux réunions d'attaque, ça, si ça se trouve. Et alors, bon, d'accord. Alors voilà, Gilbert Benet. Qui c'est Gilbert Benet? Ben, c'est un de ses patrons du décolletage, du tronçonnage décolletage. C'est une vieille histoire dans cette vallée. Il a hérité de son grand-père, puis de son père. Il est à la retraite maintenant. Il a des responsabilités dans le syndicat national du décolletage. Il est devenu monsieur statistique dans ce syndicat national du décolletage, c'est-à-dire du côté des patrons. C'est pas du tout, je n'y ai pas peur, c'est pas des ouvriers, c'est des patrons. Et il est à la retraite maintenant, et puis un jour il a cédé son entreprise à un industriel du coin, Gilbert Benet.
Ça, c'est la porte de l'usine de mon grand-père qui a été faite en 1930. Je l'ai récupéré, donc il y a ses initiales, Béné Ferdinand.
Ferme la porte ici, vous.
Bon, on le suit.
Et comment vous avez vu le secteur du décolletage évoluer depuis ces dernières années?
Oh ben, ces dernières années, si vous voulez, on a assisté à une évolution de la structure du capital. C'est-à-dire que de 1900 à 1990, toutes les capitales des entreprises sont à structure familiale. Et puis en 91, on voit arriver les premiers capitaux étrangers. Alors ça, je connais bien, parce que le premier qui a été racheté, c'est un de mes autres beaux-frères, qui avait une belle boîte, qui a été racheté. Il y avait 60%, c'était des Libanais, et 40% le Crédit Agricole de Lyon. Et puis 3 ans après, c'était une boîte qui tournait, qui faisait du bénéfice. 3 ans après, ils étaient en règlement judiciaire.
Et comment vous expliquez ça, alors?
Ben, parce qu'ils sont venus, ils ont sucé la boîte, et puis c'est tout. C'était des boîtes qui faisaient du bénéfice, hein. Ils arrêtent d'investir, ils font remonter les bénéfices à la holding, puis après, ben, terminé. Et puis ils s'en vont. Et puis après, vous avez Dapta Malinjou, le plus gros décolleteur, en 93, qui est repris par un groupe, Iéna Finance, et il rentre en bourse. Et puis, il est en règlement judiciaire en 96. Vous voyez, ça a pas mis longtemps, 3 ans. Et c'était une des plus belles boîtes, un des plus gros décolleteurs européens, à un moment.
Et il était en bonne santé en 93, quand il est repris?
Oui.
Donc la boîte de vos frères est reprise en 3 ans, elle est liquidée par les financiers.
Ouais.
En 3 ans, le numéro 1 du décolletage, il est repris par des financiers, on va dire.
Ouais,
en 3 ans, il est déglingué aussi.
Sauf il est déglingué. En 98, on voit arriver les groupes américains. Hein. 98, donc... Fairchild USA reprend Technico, il y a 140 salariés, c'est tout bouffé, il n'y en a plus.
Ça y est, c'est mort.
C'est mort. Autocam reprend Bouvrat, il y avait 2 sites Bouvrat, ils ont fermé 1 site, ils ont licencié 83 personnes. Elite reprend IBEA, ça a l'air d'aller à peu près. Timken reprend Bamarec en 2001. L'entreprise avait à peu près 120 personnes, ils sont 80 maintenant. Un groupe suisse reprend Jean Perret, c'est le gars dont je vous parlais qui avait 120 personnes, ça a été liquidé tout de suite. C'est mort. Et Bank of America reprend César Varcher, bon, c'est en 2004, c'est des belles boîtes, c'est encore pas mort. Autocam, Franck Épinard, ils ont perdu 300-400 salariés, hein. Et là, ils prévoient encore un truc une vague de 139 suppressions d'emplois. La politique des gens du coin, c'était de construire leur société pour la céder à leurs enfants, leur céder un capital. Alors que ces gars-là, ils viennent, eux, c'est du résultat tout de suite, et ils s'en foutent, ils foutent le camp, ils s'en foutent des salariés et tout. Moi, j'ai un gars qui est parti en retraite, ça faisait 43 ans qu'il travaillait chez moi. Bon, quand vous bossez 43 ans avec un type, c'est le jour où il faut le licencier, vous regardez plus dans la glace, hein. Parce que vous savez, dans les petites boîtes, on a tous la blouse sur le dos. Quand on transpire tous, hein. Donc ça crée des liens, hein. On savait, bon, comment ça allait dans le ménage. On savait s'il y avait des difficultés, le gars. Eux, ils arrivent, ils les connaissent même pas. Ils s'en foutent. Ils traitent des chiffres, hein. Ils voient pas la conséquence humaine à côté. Hein. Enfin, voilà.
Là, c'est un peu un capitalisme sans visage humain. C'est-à-dire que...
Ah oui. Ouais. Là, c'est tout à fait... C'est le capitalisme pur et dur, hein, là. On vient, on vide l'entreprise, on dégage les salariés. Alors, c'est le salarié qui coûte cher, donc il vire le salarié. Il s'en fout, il regarde pas si le gars, il a commencé sa baraque, c'est le truc. Il regarde pas si le gars a de la famille. Nous, quand on est licencié, on a dit, bon, ben, on l'a expliqué à la fille, on a dit, écoutez, bon, c'est vous, parce que vous êtes toute seule, il y a une mère de famille qui a 2 gosses, on ne la licencie pas. Pour moi, c'est un échec, mais enfin, bon, on a essayé de limiter les dégâts.
C'est tout. Alors qu'eux, ils s'en foutent, quoi, royalement. Enfin.
Donc, il y a aussi, est-ce qu'il y a aussi un souci de respectabilité locale? C'est-à-dire que si jamais vous, vous licenciez du personnel, vous allez d'abord recroiser ces gens-là dans la rue, vous connaissez la famille, vous connaissez tout ça.
Ah ben oui, ça, ça joue, hein. Ça, c'est sûr. Ces grosses boîtes qui ont été rachetées par des financiers, ils ont détruit, à ce que je connais, hein, 1300 emplois. Le gars qui a racheté Bank of America, qui a racheté les deux plus belles entreprises, vous savez où il est, le dirigeant qui dirige ces deux groupes-là, ces deux usines-là? Il est à Londres. Alors vous pensez bien ce qu'il s'en fout. Lui, il tire tout ce qu'il peut au point de vue finance, et après, il peut, depuis Londres, il peut licencier. Il verra pas les gars qui pleurent dans le coin. Ils s'en foutent. C'est des requins, si vous voulez.
Voilà, Gilbert Benet, patron à la retraite, patron d'une entreprise de décolletage. Il a cédé son entreprise à un industriel du coin. Voilà son point de vue. Et c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, parce que vous avez vu un peu les sondages qui sortent ces jours-ci et qui indiquent vraiment que vous, Français, mais dont je fais partie, nous sommes une bande de bourriques archaïques. On essaye de nous intéresser à la sécurité, à l'immigration, aux islamistes barbus qui nous menacent, au communautarisme, au mariage homosexuel, enfin l'état de sujet. Eh ben non. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'emploi, c'est le chômage, c'est le niveau de vie, c'est la hausse des prix, etc. C'est des trucs comme ça, on change pas, quoi. On n'arrive pas à comprendre que, il faut s'intéresser à autre chose. Non, on est fixé là-dessus. Et là, et pourquoi le chômage? Oh là là, alors, attendez, ça fait 30 ans qu'on parle de pourquoi le chômage. On vous l'a dit tout à l'heure, le monsieur qui était dans le poste ce matin sur France Inter, il a bien expliqué que c'est parce qu'il y a trop de règlements. En France, quand il y aura plus de tous ces règlements, pas de charges, pas de machin, eh ben, hop, ça ira comme en Amérique. Ce sera comme en Amérique. On vire 1300 salariés. En deux semaines, ils retrouvent du boulot. Mais bien sûr, on vous dit ça à l'heure de votre petit déjeuner et tout le monde gobe ça sans moufeter. Eh ben, pas les patrons de ce coin-là, au moins, qui, pour ce qui concerne cette région de décolletage, ont les mains dans le cambouis. Qui parle un peu comme je le fais? Ben, c'est Frédéric Lordon. Frédéric Lordon est économiste. Il a pas mal aidé Gilles Perret dans ce film, dont je rappelle le titre, La mondialisation, et on va voir que c'est un peu, on trouve des patrons un petit peu différents. Nous, à la base, si j'y suis, on trouve des économistes qui parlent un peu différemment eux aussi.
On a l'impression que c'est les plus belles pommes qui sont cueillies dans la vallée, et que au bout de 3 ans, il n'en reste plus que le trognon, voire seulement les pépins, quoi.
Le passage de fonds de private equity sur certaines entreprises a parfois l'effet d'un nuage de criquet sur le champ d'un agriculteur. Alors là, le but de la manœuvre n'est absolument plus de redresser la boîte, de lui faire retrouver une trajectoire de croissance honnête ou quoi que ce soit. Le but est de réaliser, alors dans des horizons souvent très courts, une plus-value financière directement par le démembrement de l'entreprise et sa revente par partie. Tel est le sort désormais de bon nombre de ces PME de larves, et ça ne leur promet pas des lendemains qui changent.
J'ai l'impression qu'il y a un conflit entre le capitalisme à la papa, et d'ailleurs le capitalisme paternaliste revendiqué comme tel par les patrons du cru, à un capitalisme international et sans visage.
Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, je vous aurais dit qu'il n'y avait pas de conflit entre ces deux formes de capitalisme. Parce que l'une ignorait l'autre, tout simplement. Bon, il restait des poches de capitalisme familial et paternaliste par-ci, par-là, dans quelques coins de France et d'ailleurs. Bon, très bien, le grand capitalisme actionnarial, celui du CAC 40, etc., n'en avait cure, ça ne l'intéressait pas. Bon. Les choses ont un petit peu changé tout de même, parce que... comme le montre bien le cas de cette entreprise Bontaz, il y a un certain nombre d'acteurs financiers qui se déploient à l'échelle de la mondialisation et qui ont commencé à s'intéresser non plus aux grandes entreprises cotées du CAC 40 ou des grands indices boursiers, mais qui ont commencé à s'intéresser à des PME performantes. Et donc voilà que certains des acteurs les plus dynamiques et les plus voraces de la finance déréglementée commence à descendre dans la profondeur du tissu industriel français et à jeter un œil sur quelques sous-traitants performants, sur quelques PME avec des bons portefeuilles de produits, des bonnes technologies, des bonnes perspectives d'innovation, etc. Parce que ils sont en train de se dire que ce sont des sources de profit qu'il faut absolument pas négliger. Alors là, oui, les deux capitalismes rentrent en conflit. Et ça produit des télescopages assez brutaux, puisque, en effet, ces entreprises qui étaient jadis sous le régime d'un capitalisme plutôt paternaliste et familial, se retrouvent directement confrontées à des contraintes qu'elles n'avaient jamais connues, et qui sont les contraintes de rentabilité de la finance déréglementée internationale. Alors oui, ça fait mal, ça fait mal. Et le fait est que, Dieu sait que le paternalisme, comme système de rapports sociaux, alors s'il y a quelque chose qui mériterait vraiment d'être qualifié d'archaïque, c'est bien ça. Bon, les fonds d'investissement débarquent et voilà que le capitalisme familial nous semble un havre de paix qu'on se met à regretter. C'est dire la dureté des temps et le cours des choses. Si on en est rendu au point de trouver que le capitalisme familial est une sorte de modèle social, c'est que vraiment ça va très très mal.
Nous vivrons et l'économie française et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente.
Georges Pompidou, 1967.
Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ces risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections.
Voilà, c'était il y a bientôt 40 ans, 1967, la voix de Georges Pompidou, ça annonçait la fin des 30 glorieuses, enfin, qui ont fini en 75. C'est une date approximative, bien évidemment. Mais enfin, au cours de ces 30 glorieuses, l'un des caractères, ça a été qu'il n'y avait pas de chômage. C'est à peu près le plein emploi, même si ça commençait à se dégrader au début des années 70. Et ça n'empêchait pas, c'était pas l'Union soviétique quand même, la France, hein, ceux qui ont connu la France d'avant 75, ceux qui s'en souviennent. Les patrons faisaient des bénéfices, et même de bons bénéfices. Sauf que la politique ne se fait pas à la corbeille, disait Charles de Gaulle, et c'est vrai que la bourse, la spéculation, c'était tenu en laisse, tenu à l'écart. Ce qui comptait, c'était l'entreprise elle-même, et c'était ce rapport, et on peut dire cet affrontement, bien évidemment, historique entre le capital et le travail, mais le capital productif, le capital industriel. Et puis, il y a eu la domination peu à peu, et c'est ça qui caractérise la mondialisation libérale, c'est l'hégémonie de la finance sur toute l'activité économique. Nous voilà dans une autre entreprise. On va revenir à Cluses et dans la vallée du décolletage, mais là on fait un petit détour dans la Drôme, à Saint-Vallier, une entreprise qui s'appelle Céralep, une entreprise qui fait de la céramique, une vieille boîte aussi qui date des années 20, qui est devenue une filiale d'Alstom, qui a été vendue dans les années 90. Qui a été racheté en 2001 par un fonds de pension, et peu à peu les affaires ça a coulé peu à peu. Là, le fonds de pension a récupéré la trésorerie, a cessé d'investir, a chopé la clientèle le carnet de commandes au profit d'une autre entreprise, et puis voilà, tout ça c'était fini. On a failli mettre la clé sous la porte. Or, il y avait là un gars qui s'appelle Robert Nicaise, qui était le responsable de la CGT. Et il avait un vieil ami qui s'appelle Dominique Herteau et qui, lui, était un patron, et pas n'importe lequel, parce qu'il était l'un des directeurs de Coca-Cola. Et à eux deux, eh bien, ils ont réussi à sauver cette entreprise en créant une SCOP. Aventure pas banale et réponse à vos questions.
J'ai occupé la fonction de directeur des ressources humaines du groupe Olivetti,
Ensuite, j'ai été, après différentes postes, mais vice-président de Coca-Cola pour la France, puis PDG de Strafford,
Dominique Mobilier Carto,
bureau pour l'Europe, et PDG de la Brinks pour la France et l'Afrique.
Vous, vous n'étiez pas du tout de Séralep, vous n'avez jamais travaillé à Séralep. Qu'est-ce qui vous a motivé en 2003 pour venir vous proposer, pour filer un coup de main aux salariés de Séralep?
Tout le monde a eu un moment travaillé, je crois que ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère a dû y travailler. En fait, tout le monde a un peu travaillé chez Séralep à une époque. La deuxième chose, c'est que j'avais un de mes meilleurs amis qui s'est suicidé chez Séralep. Il a mal vécu tous les changements et quelques mois avant la fermeture complète, il s'est suicidé dans les locaux de l'entreprise. Moi, ça m'avait beaucoup marqué et à l'époque, j'ai essayé d'aider un peu sa famille et ça m'a rapproché un peu de ceux qui ont voulu se battre pour maintenir Séralep.
Et qu'est-ce qui vivait si mal
Je pense qu'il faisait partie des cadres de la direction et il vivait mal le fait que cette entreprise allait fermer. Alors que, comme beaucoup, on pensait qu'on pouvait la garder ouverte. Et je crois que, comme beaucoup, moi j'ai découvert ensuite, on s'est aperçu qu'on aurait pu faire des tas de choses qui n'ont pas été faites par les anciens actionnaires.
Par exemple ?
Par exemple, en essayant déjà de plus dire on licencie 100 personnes ou 120 personnes ou 300 personnes ou 2000 personnes, mais de dire on a besoin d'économiser tant de milliers ou de millions d'euros, et de se dire, eh bien, cet argent-là, on va essayer de le trouver ailleurs qu'en licenciant.
C'est-à-dire qu'il y a comme une routine qui s'est installée où dès que ça va mal, on estime que c'est par les suppressions de postes qu'on s'en sort, ou même quand ça va bien d'ailleurs des fois.
On fait un peu dans la facilité, mais donc on fait des plans de licenciement. De toute façon, c'est quand même à moyen terme une aberration microéconomique parce qu'on perd des compétences et une aberration macroéconomique parce que quand vous licenciez dans l'entreprise A, vous avez des chances que le licencié lui-même de l'entreprise A n'achète plus dans l'entreprise B, qu'ensuite on licencie dans l'entreprise B, et on continue, et on fait ça depuis d'ailleurs 25 ans.
Vous dites depuis 25 ans, ça fonctionne de cette manière-là ?
Oh, ça fait à peu près 25 ans, ça s'est accéléré énormément à la première guerre du Golfe, donc en 1991.
Pourquoi vous citez la date de 91, c'est précis ?
C'est très net. Oui, c'est très net, je pense qu'au moment de la crise et de la guerre du Golfe, il y a eu un changement, ça a été un peu chacun pour soi, on a vu une crise énorme arriver en 93, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des milliers de licenciements par jour, et c'est clair qu'il y a eu un changement. On aurait pu croire que ça s'arrêterait, en fait on est resté sur cette approche-là et elle s'est dégradée un peu depuis. Et maintenant, on est rentré dans un cycle, comme je vous dis. Alors, le CDI, on sait plus ce que c'est. Et puis, les licenciements à la va-vite de gens rentrés il y a beaucoup d'années ou il y a quelques jours, on met tout le monde dans le même sac et on passe tout le monde par-dessus la barrière.
Au niveau de Séralep, dans les dernières années, comment vous expliquez que les groupes se soient passés cette entreprise qui, quand même, à un moment, était assez rentable? Vous disiez, on avait calculé autour de 13%. Comment ça se fait que cette entreprise passe d'un groupe à un autre?
Ce que je comprends pas, c'est qu'un groupe aussi riche que PPCI ait le droit de déposer un bilan d'une de ses filiales, puisqu'en fait, les licenciements et tous les fournisseurs qui éventuellement n'ont pas été payés, ou s'ils l'ont été, ont été aux frais du contribuable. Alors que vous avez à côté de ça une entreprise très riche, qui a des actionnaires immensément riches, qui s'appelle Riverside, qui s'est réinstallée très très vite à Vienne, en Slovaquie et ailleurs, qui a reconstitué d'autres outils de production, avait largement les moyens de prendre en charge l'arrêt d'activité de Séralep. Ces fonds de pension ont une attitude qui est à la limite de l'acceptable. Et ils s'excitent d'ailleurs chaque fois qu'il y a un licenciement ou un plan de licenciement. C'est pour eux, c'est une espèce d'orgasme, c'est fantastique. Donc c'est prendre son pied, tout de suite l'action va monter. Sur le plan humain, c'est inadmissible. C'est surprenant d'ailleurs que les politiques n'aient pas mis le holà sur les plans de licenciement économique comme on les traite aujourd'hui. Aujourd'hui, Nestlé se pose des questions sur Perrier, non pas parce que Perrier perd de l'argent, mais parce que c'est un peu moins profitable qu'ailleurs. Si on analysait bien, on a pu comprendre que c'était ce qui était passé chez Danone avec Lu. Lu était un peu moins profitable que le reste. Donc, pratiquement, il devrait y avoir des lois qui l'interdisent.
Voilà, et c'est pas, si vous arrivez, c'est pas un syndicaliste qui parle. Et c'est pas un chercheur, c'est pas un intello, quoi qu'il, c'est pas pour autant qu'il est ignorant de tout. C'est Dominique Arto qui est actuellement directeur de Séralep, mais qui est aussi ex-directeur général de Coca-Cola. Donc voilà, des points de vue aujourd'hui, la mondialisation heureuse, avec un point d'interrogation, vue par les patrons et vue aussi par un économiste différent, Frédéric Lordon.
Et on a presque l'impression qu'il y a une solidarité qui se crée entre les ouvriers, y compris leur représentation syndicale, y compris par exemple des élus de la CGT, et ses patrons paternalistes.
Le paysage conflictuel s'est enrichi d'un nouvel acteur, qui est le capital financier. Pendant les années fordiennes, la finance était tellement en retrait qu'on avait l'impression que le conflit structurant du capitalisme était celui qu'avait décrit Marx, c'est-à-dire celui qui oppose le patron, l'entrepreneur au salariat. Désormais, c'est un jeu à trois acteurs. Le capital financier est revenu en force dans le paysage et désormais, ce sont trois acteurs qui sont en interaction. Le capital financier, le capital industriel et le salariat. Alors, quand bien même rien n'effacera le conflit structurant entre le capital industriel et le salariat, il est absolument évident que l'arrivée du capital financier comme acteur extrêmement puissant et même comme acteur hégémonique rebat complètement les cartes. Existent des possibilités maintenant d'alliance objective entre deux des acteurs qu'on croyait les plus irréductiblement opposés, à savoir le capital industriel et le salariat. Car en effet, l'entrepreneur et les salariés sont du même côté de la barrière face au capital financier. Voilà, c'est un des grands paradoxes de l'époque.
Les critiques contre le capitalisme sont d'habitude émises par des syndicalistes, par l'extrême gauche, par les communistes. Et là, ce qui émerge, c'est une critique du capitaliste par des capitalistes, par des patrons. Il y a 10 ans, on n'aurait pas imaginé ce type de discours.
Non, en effet, c'est tout à fait inédit. C'est un fait de grande ampleur politique, à mon avis. Effectivement, il n'y a pas que les syndicats, les salariés, les partis de gauche, je veux dire de vraie gauche, à soutenir cette critique-là du capitalisme, dans laquelle arrivent désormais des acteurs tout à fait inattendus. Si ceux-là même qui sont supposés être les soutiens du système entrent en rébellion avec le système, alors c'est que le système ne va pas bien du tout.
Il y a des mots qui sont employés, qui sont requins, ils ont des orgasmes quand il y a des licenciements. Il y a un vocabulaire qui devient extrêmement dur.
Le propos le plus radical est tenu à l'image dans le film de Gilles Perret. C'est ce chef d'entreprise qui décrit ses relations avec ses grands donneurs d'ordre en faisant une référence historique à des époques et des régimes dans lesquels les vrais commanditaires de la violence la faisaient exécuter par d'autres. De qui parle-t-il ? Il parle du nazisme. Enfin, il faut se rendre compte de l'événement politique que c'est qu'un chef d'entreprise soit allé chercher la référence historique du nazisme pour donner à percevoir l'intensité de la tyrannie concurrentielle. C'est quand même quelque chose d'énorme, je trouve.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de François Ruffin du 29 novembre 2006 qui s'inscrit dans le souci de la Bastille J'y suis d'apporter sa contribution dans le grand débat de la refondation de l'économie et de la finance. Merci à Frédéric Lordon, Gilles Perret, Alain Meunier, Gilbert Bénère, Dominique Artaud, Robert Niquès, Sophie Hurde et Brigitte Jean-Perrin. À voir Ma mondialisation de Gilles Perret disponible au film du Paradoxe. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis. À la technique, Olivier Riotor et Ronan Mahé, réalisation Coy Nguyen et Raphaël Mouterne, assistante Charlotte Perry, chef du répondeur Agnès Le Bot, le répondeur de Là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37.